débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. La chancelière allemande Angela Merkel a invité ce lundi à Berlin le nouveau Premier ministre grec. Les relations se sont tendues davantage entre les deux pays depuis que le gouvernement d'Alexis Tsipras a remis sur la table la question des réparations de guerre dues selon lui par l'Allemagne à son pays. Alors cette exigence va-t-elle compliquer la renégociation de la dette qu'Athènes appelle de ses voeux? Quelle est sa légitimité historique? Et l'Allemagne est-elle prête à prendre en considération cette revendication? Entre l'Allemagne et la Grèce, l'apaisement est-il possible? On va en parler avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Christian Lequen est professeur de sciences politiques aux séries Sciences Po. Vous êtes rédacteur en chef de le European Review of International Studies, qu'on peut traduire par la Revue Européenne d'Études Internationales, dont le volume 1 vient d'être publié. Bonsoir Christian Lequen.
Bonsoir.
En anglais seulement cette revue?
En anglais, mais publiant des articles l'ensemble des collègues européens et faisant des recensions également de livres publiés dans d'autres langues que l'anglais. Voilà, par exemple, nous pouvons recenser des livres publiés en portugais, en russe, en turc.
Mais traduit en anglais pour les besoins de la revue?
Non, simplement la recension est en anglais.
D'accord. Bon, ben, nos auditeurs sont invités à consulter cette... European Review of International Studies. Un interlocuteur au téléphone, c'est Gabriel Colletis, qui est professeur de sciences économiques à l'université de Toulouse 1, Capitole. Toulouse, d'où vous êtes en ligne, Gabriel Colletis. Merci.
Oui,
bonsoir
merci
à vous.
Bonsoir, ravi d'être avec vous.
Merci d'être là. Alexis Tsipras a donc remis sur la table ces réparations de guerre qui seraient dues à la Grèce par l'Allemagne. Est-ce qu'on peut peut-être définir dans un premier temps à quoi correspond cette revendication? Je vous pose la question, Gabriel Colletis.
Oui, alors en fait, ce que les Grecs considèrent être cette dette de guerre donc de l'Allemagne envers eux comporte en fait trois éléments. Le premier élément, c'est l'or que l'Allemagne nazie a récupéré pratiquement immédiatement dès que les troupes allemandes ont envahi la Grèce, donc l'or de la Banque de Grèce qui a été immédiatement pris donc par l'armée allemande. Le deuxième composante, c'est un prêt forcé que l'Allemagne nazie a imposé au gouvernement grec au titre de ce que l'Allemagne nazie à l'époque a appelé la contribution de la Grèce à l'effort de guerre allemand. Donc il s'agissait bien sûr d'un prêt forcé. Et enfin, c'est la partie principale maintenant, ce sont les infrastructures qui ont été pratiquement détruites, complètement détruites, à 90% détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, car comme on le sait, le conflit a été extrêmement violent en Grèce. Et les troupes allemandes ont donc détruit les ponts, les infrastructures, enfin une grande partie des infrastructures du pays. Voilà, ce sont donc trois composantes que les Grecs considèrent être une dette de guerre de l'Allemagne envers leur pays.
Merci de ces précisions, Gabriel Colletis. Quelle est la légitimité de cette revendication d'après vous, Christian Lequen?
Ben d'abord, il faut se poser la question de la légitimité par rapport au droit international. C'est une question très compliquée parce qu'on voit que les experts et les commentateurs ne sont pas tous d'accord. En gros, certains disent qu'il y a eu des promesses qui ont été faites dans une conférence internationale qui a eu lieu à Londres en 1953 de réparations qui donc n'ont pas été pour l'instant honorées par l'Allemagne. Et puis d'autres disent que l'Allemagne aurait renoncé à cette dette de guerre en acceptant le fameux traité 2+4, c'est-à-dire entre les deux Allemagnes et les quatre alliés, qui a été signé en 1990 au moment de la réunification de l'Allemagne. Ce qui me paraît, si vous voulez, important, c'est que je crois que sur le fond, c'est un peu tiré par les cheveux de la part du gouvernement grec, mais c'est une posture de négociation. Donc, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à ce que disait notre interlocuteur.
Gabriel Colétis.
Sur les souffrances qu'ont connues les Grecs en raison de l'occupation nazie. Mmh. Ils ont été très importants.
Une revendication tirée par les cheveux, dit Christian Le Ken.
Un peu, oui.
Gabriel Colétis, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors je pense que c'est un débat, comme mon collègue vient de le dire, qui est un débat complexe. Hein. Évidemment, les experts ne sont pas tous d'accord. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'en Allemagne même, aujourd'hui, un certain nombre d'experts ont commencé à dire que juridiquement, l'affaire était très complexe. Hein. Bon, alors bien sûr, on va trouver beaucoup d'experts du côté de la gauche allemande ou l'extrême gauche allemande, mais je rappelle qu'en 2014, le président de la République d'Allemagne, hein, donc Joachim Gauck, était venu en Grèce et quand il avait été interrogé lui-même sur cette question, il avait semblé être très, très gêné, comme si en quelque sorte il comprenait en quelque sorte la revendication des Grecs. Hein, et
ouais,
plus récemment, il y a quelques jours à peine, l'ancienne candidate social-démocrate à la présidence de la République en Allemagne a déclaré elle-même que ce crédit forcé devait être évidemment remboursé. Mmh. Alors maintenant, quelle est la crédibilité de cette revendication? Il est tout à fait évident que cela risque de prendre des années, et ça c'est peut-être le point essentiel, alors que les problèmes de la Grèce sont des problèmes extrêmement pressants qui ne peuvent pas attendre une résolution dans les années qui viennent.
Hein. Oui, une arme de négociation, disait Christian Le Ken.
Oui.
Certains semblent disposés, Christian Le Ken, en Allemagne, à discuter, et pas simplement dans les milieux d'extrême gauche, comme le disait tout à l'heure Gabriel Colétis.
Non, aussi au sein du Parti social-démocrate allemand, du SPD. Effectivement, on vient de citer le nom de l'ancienne candidate à la présidence de la République, Madame Gesine Schwan, qui s'est prononcé en faveur, disons, d'une discussion, au moins.
Et qu'est-ce qu'en pense l'opinion publique, alors?
Je pense que ça dépend des sensibilités politiques. Ça dépend aussi vraisemblablement des couches socio-professionnelles. Je pense que l'allemand, si je puis dire, monsieur tout le monde, considère vraisemblablement que c'est un peu tiré par les cheveux, pour reprendre l'expression que j'utilisais tout à l'heure. En revanche, dans le monde intellectuel, on est davantage prête à considérer qu'il peut y avoir un débat là-dessus. D'ailleurs, je lisais que deux touristes allemands qui étaient en Grèce se sont rendus à la mairie de Nauplie, donc cette ville du Péloponnèse, et ont donné à la mairie 872 €, qui était une sorte d'avance sur ce que l'Allemagne devrait à la Grèce en raison des dettes de guerre.
En tout cas, Tsipras a fait une bonne opération en remettant sur la table cette vieille histoire, on va dire.
C'est un bon négociateur, mais il, comme toujours dans les négociations, il y a un moment aussi, il ne faut pas rester sur une posture trop dure, il faut aller vers un compromis. Je pense que c'est un peu ce qu'il a en tête, parce que je pense que c'est un homme intelligent qui a comme souci d'aller vers un compromis avec l'Allemagne et l'Europe.
Et Gabriel Colétis, qu'est-ce qu'on dit alors en Grèce, hors gouvernement bien sûr, puisqu'on connaît sa position, j'imagine qu'on est dans les rues d'Athènes unanimement favorable à cette demande.
Oh, vous savez, c'est pas si évident que ça, parce que je pense que les Grecs, de manière générale, considèrent qu'une dette, c'est une dette et qu'elle doit être réglée. La question, en fait, est de savoir dans quels termes la régler. Et la question, peut-être, que les Grecs se posent, c'est pourquoi les Allemands sont-ils hostiles à une annulation, ou plutôt à une réduction partielle de la dette, puisque eux-mêmes, ces mêmes Allemands, en 1953, mon collègue évoquait la conférence de Londres, ont bénéficié d'une très forte réduction de la dette, donc qui à l'époque concernait l'Allemagne. Hein. Donc l'Allemagne en 1953 a obtenu pendant la conférence de Londres l'annulation de pratiquement la moitié de sa dette et l'indexation de la partie restante sur sa croissance économique et sur ses exportations. l'immigration. Et je rappelle que dans un passé beaucoup plus récent, en 1989, lorsque l'Allemagne a engagé son processus d'unification, eh bien, elle a absorbé une partie importante de l'épargne en Europe. Par conséquent, les taux d'intérêt, comme on le sait, ont fortement augmenté en Europe à cette époque-là. Et ils ont augmenté parce que, comme je viens de le dire, donc l'Allemagne a absorbé une partie importante de l'épargne européenne. Donc, dans la mesure où l'Allemagne, en 1953 et en 1989, a bien été aidée face à la dette considérable qu'elle avait sur ses épaules, et aussi parce que dans un passé plus récent, elle devait financer son unification, eh bien les Grecs disent, nous aussi, maintenant, nous sommes dans une situation de très grande difficulté économique, avec une dette dont tout le monde convient qu'elle est beaucoup trop lourde, y compris les économistes du Fonds monétaire international. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire pour que la Grèce retrouve le sentier du développement? Quels sont les engagements que les Grecs doivent prendre de manière à ce que cette contribution européenne ne se volatilise pas à nouveau, ne soit pas à nouveau mal dépensée? Voilà, ça, ce sont les vraies questions.
Oui. Alors, avant d'aborder cette vraie question, et vous avez raison de le signaler, juste, Christian Lequen, les gouvernements européens se sont positionnés sur cette requête, ou est-ce qu'ils considèrent que c'est une affaire gréco-allemande?
Alors, ils considèrent plutôt que c'est une affaire gréco-allemande, et ils ont plutôt tendance à ne pas vouloir trop polluer le vrai débat qui est justement la question de la remise de la dette grecque actuelle par cette référence à l'histoire. Oui. Je crois d'ailleurs qu'on va assez vite oublier cette affaire. Moi, je pense que là, il y a eu des déclarations en Grèce, il y a eu Tsipras lui-même qui s'est prononcé là-dessus. Donc immédiatement, ça a relancé le débat. Mais la vraie question, c'est comment faire en sorte que la Grèce ne soit pas, oui, au mois d'avril prise par un défaut de paiement, et qu'on en arrive à un contrôle des capitaux.
Est-ce que ça peut avoir un impact, cette exigence, sur la renégociation de la dette grecque par l'Union européenne ou pas? Parce que ça semble quand même sérieux. Je veux dire, c'est pas une c'est tiré par les cheveux, vous le dites, mais
je
une certaine légitimité, on va dire.
Oui, bien sûr, mais très honnêtement, je n'attacherai pas quand même trop d'importance à cette revendication. La vraie question, c'est dans quelle mesure la Grèce actuellement est en mesure de rembourser ou pas la dette qui est, comme l'a dit très bien mon collègue, vraisemblablement trop lourde pour elle, et les facilités que l'Union européenne est prête à lui accorder de façon à ce que la Grèce ne soit pas entièrement en défaut, car il n'est dans l'intérêt de personne, y compris de l'Allemagne, que la Grèce soit entièrement un défaut. Je ne crois pas un moment que, dans le fond, les Allemands, malgré les déclarations qui, là aussi, sont un peu des postures de certains hommes politiques, comme Monsieur Schäuble, le ministre des Finances, souhaitent que la Grèce sorte de la zone euro. Mmh. Non, on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas.
Bon, allez, on en parle. Où en est-on, alors, Gabriel Koletis, de ce bras de fer qui oppose la Grèce et l'Europe? Comment vous évaluez la situation 2 mois après l'accession de Syriza au pouvoir?
Bon, alors, je crois effectivement que la Grèce est dans une situation financière extrêmement difficile, et je pense qu'elle ne s'en sortira pas, tout simplement pas, si elle doit consacrer l'essentiel de ses ressources et de ses ressources budgétaires à la fois au remboursement des emprunts, donc le paiement de la dette, et aussi, on oublie souvent d'en parler, les intérêts de la dette, parce que les intérêts de la dette sont extrêmement lourds. Je voudrais juste vous donner un chiffre, c'est les intérêts représentent aujourd'hui entre 20 et 22% du budget de l'État. C'est-à-dire que c'est le premier poste de dépense de l'État grec, c'est de payer les intérêts de la dette. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, rien n'est possible. Il est extrêmement difficile de financer le programme d'urgence humanitaire. Il est extrêmement difficile de dégager les ressources nécessaires au développement de la Grèce. Donc, chacun comprend bien, les Allemands y compris, mon collègue a parfaitement raison, que cette situation est intenable. Et qu'il va falloir absolument faire quelque chose. Alors maintenant, ce que je pense, si vous voulez, c'est que la Grèce a bénéficié d'une annulation partielle de sa dette déjà assez considérable en 2012, donc de l'ordre d'une centaine de milliards d'euros, et qu'évidemment, on ne peut pas tous les 3 ans effacer partiellement des ardoises de ce type-là. Donc je pense que maintenant, la vraie question est comment peut-on faire pour annuler partiellement la dette grecque sans sans pour autant faire perdre complètement leurs créances aux États qui ont prêté cet argent à la Grèce. C'est ça la vraie question.
Alors je la pose à Christian Lequesne.
Oui. Je suis absolument d'accord avec cette analyse. J'ajouterais un point, c'est comment faire en sorte que la Grèce réforme son État de telle façon à pouvoir assurer une pérennité structurelle maintenant à son économie. Parce que ça, c'est un point quand même où les Allemands ont d'une certaine manière pas complètement tort, c'est-à-dire que ce que l'on a vécu en Grèce depuis 5 ans maintenant, c'est pas simplement le résultat des pressions de l'Europe, c'est un phénomène structurel qui est lié au fait que depuis 1949, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre civile en Grèce, on a eu du mal à avoir un État qui fonctionne convenablement en Grèce.
Mais est-ce que les réformes ont été engagées dans ce sens ou pas ?
Ben c'est un peu ce qui c'est un peu le paradoxe avec Syriza, c'est-à-dire que d'un côté, il y a ce discours de souveraineté parce que quelque part ce qu'ont vécu les Grecs ces dernières années, la baisse de leur niveau de vie les a amenés à considérer qu'ils étaient soumis vraiment à un traitement tout à fait indigne. Mmh. Donc il y a ce côté honneur un peu national, mais en même temps c'est vraisemblablement Syriza qui est le seul parti capable de mener des réformes, parce que les deux autres partis, que ce soit le PASOK ou Néo-Démocrate, à qui se sont succédés, n'ont jamais réussi à réformer l'État grec. C'est-à-dire que tout l'establishment traditionnel politique grec aujourd'hui est totalement décrédibilisé. Mmh. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a cette posture un peu nationale de Syriza, et en même temps, Syriza est vraisemblablement le seul parti qui peut réformer l'État grec dans un sens où il assurerait sa pérennité.
Mais
pour le futur.
La question, c'est, est-ce qu'il le fait, alors, Gabriel Coletis ? Est-ce que Syriza a entamé les réformes ?
Oui, alors, je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. Donc, je ne vais pas dire autrement ce qu'il vient de dire. Je voudrais simplement parler de l'économie grecque qui, en quelque sorte, dont l'état de mal-développement est le corollaire de l'état d'extrême faiblesse en quelque sorte dans lequel se trouve l'état de droit en Grèce. Je crois que ce sont deux questions qui sont extrêmement liées. En réalité, quand un état de droit n'est pas fondé sur des institutions suffisamment solides, eh bien cet état de droit ne peut pas en quelque sorte impulser, organiser, permettre à une économie de se développer. Et je crois que le véritable problème de la Grèce depuis maintenant une trentaine d'années, c'est que le niveau de consommation des Grecs depuis grosso modo l'entrée de la Grèce dans l'Union Européenne, hein, donc au début des années 80, le niveau de consommation des Grecs s'est absolument aligné sur le niveau de consommation des autres pays européens, jusqu'en 2008 évidemment, mais ceci s'est fait sans pour autant que l'appareil de production grec, lui, se développe dans les mêmes termes. Ce à quoi on a assisté, c'est un véritable effondrement de l'industrie grecque qui déjà a été extrêmement faible. Quant à l'agriculture grecque, depuis une quinzaine d'années, elle a été complètement laminée. Donc aujourd'hui, la Grèce est un pays qui est totalement dépendant de ses importations. Ce que les Grecs consomment, eh bien, ce sont des produits qui sont des produits importés, y compris des pommes de terre qui viennent d'Italie, d'Allemagne, des tomates qui viennent d'Italie, de l'huile qui vient d'Espagne, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement grave. Et cette dépendance à l'importation, eh bien, c'est doublé d'une dépendance financière, parce qu'évidemment, il fallait bien financer ces importations, et c'est ce qui explique très largement l'endettement de la Grèce. Donc, on a à la fois un déficit de la balance commerciale et un déficit de la balance des paiements, puisque la Grèce a dû se financer principalement par l'extérieur. Donc, je crois, comme mon collègue l'a dit, qu'il faut en quelque sorte simultanément mettre en place toutes les institutions d'un état de droit et en même temps développer l'économie, et les deux objectifs sont complètement
séparés. Écoutez, vous avez donné un excellent tableau de la situation. Les dirigeants dînent ce soir, hein, Tsipras et Merkel, on va attendre. on espère des solutions, on ne sait pas si elles vont arriver. En tout cas, on suivra le résultat de cette visite avec attention. Merci à tous les deux, Christian Lequen, professeur de sciences politiques aux séries Sciences Po. Je rappelle le nom de votre revue, European Review of International Studies. Et puis Gabriel Colletis, professeur de sciences économiques à l'Université de Toulouse, d'où vous étiez en ligne. Merci également à Florence Ponce et Cécile Périard. Demain, mardi politique, mercredi, on parle de Jacques Faucard et de la politique africaine de la France. Bonsoir.